La société Semaris, qui gère le marché aux produits frais de Rungis, renvoyée en correctionnel pour discrimination raciale. Un négociant en volaille avait porté plainte contre la société qui refusait de lui accorder un emplacement dans un nouveau bâtiment, selon lui en raison de ses origines maghrébines. Après enquête, le parquet de Créteil a décidé de renvoyer la Semaris et son directeur général adjoint devant le tribunal. Le quotidien La Tribune, placé en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Paris. Cela permet de geler les dettes du journal pendant 6 mois. Le quotidien économique rencontre de graves difficultés financières et cherche des investisseurs pour une recapitalisation du titre à hauteur de 15 millions d'euros. Toyota recrute. Le constructeur automobile japonais va embaucher 300 intérimaires et une centaine de CDI sur son site d'Oningue, près de Valenciennes. La direction prévoit une légère remontée de la demande pour les mois qui viennent. L'usine ne tourne plus depuis 6 mois qu'avec 2 équipes au lieu de 3. Et puis Atem Ben Arfa reste à Newcastle. Le footballeur français avait été prêté par Marseille au club anglais. Il vient de signer un contrat jusqu'en 2015 avec le club de Première Ligue. Ben Arfa, qui s'est cassé la jambe en octobre, ne devrait pas retrouver les terrains avant le printemps.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Nous enregistrons le jeu des 1000 euros dans l'Aube ce soir. Je vous attends nombreux pour des sélections et donc des enregistrements à Sainte-Savine, à la salle de spectacle. Le rendez-vous est fixé à 19h. À ce soir à Sainte-Savine.
France Inter, partenaire de l'exposition L'Antiquité rêvée, au Louvre jusqu'au 14 février. À travers peintures, sculptures et objets d'art, la nouvelle exposition du Louvre montre comment l'antique a inspiré les artistes et la société dans toute l'Europe du XVIIIe siècle. Retrouvez l'Antiquité rêvée au musée du Louvre dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com. France Inter. La différence.
15h et pratiquement 5 minutes sur France Inter, c'est l'heure de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Aux États-Unis, à 2 jours d'intervalle, on constate des quantités très importantes, plusieurs centaines d'oiseaux morts dans 2 états différents. Alors, selon les responsables dignes de ce nom, ils seraient morts à cause d'une peur, à cause de la peur probablement liée au feu d'artifice. C'est intéressant. On apprend également aussi que plusieurs dizaines de milliers de poissons ont été trouvés morts également flottant dans une rivière distante de 160 km. Alors de 2 choses l'une, ou les poissons ont une très bonne ouïe qui leur permet d'entendre les feux d'artifice, ou les poissons sont peureux et ils seraient morts également de peur. Si vous ne croyez pas celle-là, on peut aussi en trouver une autre. Hein. Accrochez-vous.
En écoutant Hervé Kempf, on comprend que cette oligarchie moderne a le besoin vital d'avoir une maîtrise totale sur les grands médias. Son pouvoir s'étend sans cesse, mais dans la discrétion. L'oligarque Vincent Bolloré, par exemple, on le croise tous les matins et tous les soirs dans le métro, et à la maison, dans la télé. Mais peu d'entre nous le reconnaissent. Avant 2006, ce milliardaire, dont le groupe a fait fortune en Afrique et dans la logistique des transports, il s'était intéressé à la publicité en achetant Havas et aux instituts de sondage en achetant l'institut CSA. Mais il restait faible dans les médias, contrairement à ses collègues Bouygues, Lagardère et Dassault. Il n'avait qu'une petite chaîne de télé, Direct 8. En juin 2006, il décide d'investir à fonds perdu 10 millions d'euros par an pour lancer 500 000 exemplaires d'un journal gratuit du soir, Direct Soir. Avec ce journal, il va appuyer méthodiquement la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Et 4 ans plus tard, en 2010, il a doublé sa force de frappe médiatique avec un deuxième journal gratuit du matin, Direct Plus, et une deuxième chaîne de télé, Direct Star. Et c'est son fils qui dirige ce groupe média. Pour 2012, tout ce groupe renforcé est de nouveau au service de Nicolas Sarkozy, ou de Jean-François Copé, si Nicolas lui laisse la place après l'été.
Salut Mermet, salut les AMG. Bonne année à tous et à chacun. Le repère de janvier à Annecy aura lieu exceptionnellement à 20h au lieu de 19h. Notre conférencier sera l'historien Olivier Valade, co-auteur du livre « Les jours heureux ». On parlera bien sûr des tricotages, compétition, ultralibéralisme. On parlera aussi d'avenir et de solutions alternatives. C'est au Dersim à Mété, jeudi 6 à 20h, qu'on se le dise et répète. Bonne année.
Solidarité des hommes et des femmes sur le front espagnol. Solidarité sur le front populaire. Solidarité des résistants pendant la dernière guerre. solidarité des Tibétains, des Grecs, solidarité entre les manifestants d'ici ou d'ailleurs, solidarité contre les injustices du monde. En résistance, nous ne sommes plus cette masse molle et débile que l'oligarchie s'évertue à maintenir comme telle, mais des hommes et des femmes qui refabriquent la solidarité, que l'individualisme nous confisque à grand renfort de télé et d'ectochias publicitaires, de problèmes de mode et d'iPod. Ce qui castre la lutte, c'est la peur. Ce qui fait vendre des voitures, des iPod ou du parfum, c'est la peur. Ce qui rend con, c'est la peur. À une femme entrée en résistance pendant la guerre à Toulouse, à qui l'on posait la question suivante, aviez-vous peur quand vous alliez seul ou à deux saboter des engins allemands, poser des bombes et attaquer l'ennemi? Elle répondait non, contrairement à la masse des gens qui subissaient l'oppresseur. Nous étions devenus une force d'oppression, un danger pour nos ennemis. Notre combat étant juste, il n'y avait pas à avoir peur.
On apprend que Mikhaïl Youn, qui avait été cambriolé, a retrouvé des effets personnels qui avaient une grande valeur sentimentale. Et parmi ceux-là, on apprend qu'il a récupéré son véhicule, à savoir un Hummer. Un Hummer à Paris. Je vous rappelle que les Hummers sont les véhicules utilisés par l'armée américaine. C'est des véhicules de guerre. Donc que Mikhaïl Youn ait récupéré son Hummer, moi ça ne me met pas du tout de bonne humeur. Ciao.
Merci pour ces messages, chers AMG. Je vais revenir sur le message précédent sur la peur, là. Vaincre la peur. Quand on lutte, on n'a plus peur. Mais c'est exactement ce que sont en train de faire les Tunisiens. Ça a commencé le 17 décembre, ce mouvement qui est en train de se répandre à travers tout le pays. Ça a commencé le 17 décembre suite à un incident. Un jeune marchand de légumes itinérant, Mohamed Bouazizi, s'est immolé par le feu après que la police l'ait arrêté parce qu'il vendait sans permis. Et en fait, ce jeune homme est un universitaire qui faisait ça, qui vendait des légumes et des fruits pour faire vivre sa famille. Alors l'incident a entraîné des manifs et des soulèvements à travers toute la Tunisie en solidarité, à Sousse, à Sfax et jusqu'à Tunis. Un peu partout, il y a eu des manifestations, notamment des manifestations d'avocats proches des droits de l'homme et pas seulement, qui ont été frappés et insultés. Pour l'instant, il y a environ, on pense, au moins 3 morts, plus ce jeune marchand de légumes qui est mort du suite de ses blessures et de ses brûlures. Tous les jeunes Tunisiens, toute la Tunisie est en train de suivre ce qui se passe à travers le pays, à travers tous les moyens possibles, et notamment une chaîne de télé, Nesma TV, qui réussit à faire des émissions et des reportages sur ces sujets. Et puis, il y a toute une cyberguerre qui se déroule. Enfin, bon, ça bouge très fort et très violemment dans ce pays dont on parle peu pour les raisons qu'on a déjà évoquées à cause des amitiés, des vieilles amitiés entre le gouvernement tunisien Ben Ali et le gouvernement français. Nous, aujourd'hui, on va retrouver, comme promis, l'équipe du monde diplomatique, rencontré et enregistré hier à la Java, à Paris, Serge Halimi, Dominique Vidal, Pierre Rimbert, Philippe Rivière et Vladimir Cagnolari. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour. Le prochain Café Repère d'Alban dans le Tarn du jeudi 6 janvier accueille Jérôme Cabot, maître conférencier à l'Université Chapelion d'Albi. Nous y parlerons de la dialectique de Nicolas Sarkozy. Le thème de la conférence, la rhétorique du bonimenteur élysien Nicolas Sarkozy. Pour ouvrir les yeux, comprendre le décalage entre le discours et les actes, on vous attend ce jeudi 6 janvier à 20h30 chez Marco à Alban dans le Tarn. Le Tarn, terre de lutte, vous souhaite une année pleine de réussite. Francis.
Appel à tous les citoyens messins, messines, pour le Café Repère qui se tiendra jeudi 6 janvier à 18h au Café La Renaissance de Ruvigne Saint-Avold, où notre thème ce mois-ci, ça sera la loi Bachelot, puisque bonne année, bonne santé, nous parlerons de la loi HPST, donc hôpital, patient, santé, territoire, on vous attend nombreuses et nombreux, et on en profitera pour manger la galette des rois. À bientôt, c'était Julie de Metz.
Le monde du plomb à la Java. Java, Java, Java.
Salut, c'est là-bas si j'y suis avec l'équipe du Monde Diplomatique, en direct de la Java et en public.
C'est le son du Monde Diplomatique. C'est vraiment pas possible. C'est le son de là-bas si j'y suis. Hey, c'est pas possible le monde, parce que des fois il n'y a pas de mots, mais là il y aura des mots en français, tu vas comprendre tout ce qui va se passer. Attends, mais attends, tu vas chercher. Hey, c'est le sens du monde diplomatique.
Merci. L'Orchestre National. C'est un orchestre national qui va nous accompagner au cours de cette heure que nous allons passer ensemble. L'Orchestre National de Jazz. Nous, on est là-bas, si j'y suis, et le monde diplomatique réuni pour cette heure autour du numéro du diplôme de ce mois de janvier. Et on va commencer par l'édito de Serge Halimi. Je disais tout à l'heure à Serge en arrivant, écoute, je crois qu'on se connaît depuis quand même très longtemps, et j'ai rien compris à ce papier. Le secret et les fuites. Je crois que c'est en liaison avec ce dont Philippe Rivière va nous parler, avec Wikileaks, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus, mon cher Serge.
Bah, le problème de l'éditorial, c'est peut-être qu'il était trop linéaire, justement.
Premier, trop simple pour moi. Voilà. C'est gentil.
Premier élément, la diplomatie implique qu'un certain nombre de communications restent confidentielles. Exemple, la crise des missiles de Cuba qui n'aurait jamais pu être réglée si un certain nombre de communications confidentielles avaient été portées sur la place publique. Deuxième élément de l'article, il y a des fuites dont les dirigeants s'accommodent fort bien. Lorsqu'on a eu la divulgation du plan Podkova au Kosovo qui prêtait aux Serbes l'intention de procéder à une épuration ethnique, plan qui était une invention issue des services de la défense allemande, ou lorsqu'on nous a parlé des armes de destruction massive en Irak, là, c'était des informations soi-disant confidentielles qui ont fuité parce qu'elles allaient dans le sens des intérêts des milieux dirigeants. Troisième élément, si ces fuites sont dangereuses, comment expliquer que l'information ait été aussi ouverte à tant de gens ? Il faut rappeler qu'en juillet dernier, le Washington Post établissait qu'il y avait aux États-Unis 1271 organisations gouvernementales, 1931 entreprises privées et 854 000 individus qui avaient accès aux documents top secret. Bon, on sait que quand on s'exprime devant 5 personnes, si on dit quelque chose d'intéressant, si je disais ce soir quelque chose d'intéressant en vous disant « conservez le secret », dans les 2 minutes, bon, le risque est faible puisque cet éditorial était obscur, mais dans les 5 minutes qui suivraient cette recommandation, l'information serait partout. Donc là, on a une information qui est disponible à près d'un million d'individus, au bas mot, document top secret, et on s'attend à ce qu'il reste indéfiniment secret. En réalité, ce qui s'est passé dans le cas de WikiLeaks, c'est que les secrets ont échappé à la classe dirigeante et aux employés de la classe dirigeante, et qu'ils ont été diffusés auprès d'un public auquel ils n'étaient pas destinés. Enfin, dernier élément de l'article, ce qu'on apprend quand même dans Wikileaks et l'intérêt de ces révélations. Dans le journal, par ailleurs, on établit un certain nombre de choses qui ont été révélées par les documents de Wikileaks, ce qui montre que ça n'a pas été aussi banal et aussi ordinaire qu'on l'a dit par ailleurs.
Voilà, parce qu'il y a quand même une tendance, Philippe, à dire « oui, bon, ben... » Voilà, on le savait déjà, ça ne fait que confirmer des choses qu'on savait déjà. Vous encadrez, vous soulignez quand même un certain nombre de choses qu'on peut qualifier d'un peu surprenantes.
Oui, ben, il y a une tendance des journalistes à dire que les journalistes avaient déjà bien fait leur travail et que donc tout ça était déjà connu. Il y a une tendance des dirigeants à dire que ces révélations ne contiennent rien de grave et donc que nous incitons à ne pas les lire finalement, tout en disant que c'est quand même très grave de les avoir révélés. Donc il y a une petite contradiction là. Et du coup, c'était intéressant d'essayer de voir parmi les 1500 documents qui avaient été révélés quand on a écrit ces papiers, maintenant on est aux alentours de 2000, quelques éléments intéressants.
Je pense qu'effectivement, quand un chef d'État ou un chef de parti confie à l'ambassadeur des États-Unis le contraire de ce qu'il dit à son peuple, dévoiler le secret peut être utile et peut être juste même. Parce que là, on a en quelque sorte la révélation d'un double discours, d'une hypocrisie. On dit on est tous derrière Chirac et le discours de Villepin aux Nations Unies. Et on va voir l'ambassadeur des États-Unis en lui disant « Vous savez, on va bientôt être débarrassé de ces deux-là. Et vous allez voir avec nous, que ce soit Sarkozy ou avec les socialistes français, les bons rapports entre nos deux pays vont reprendre. »
Je me souviens d'une peinture qui s'appelait « Le porteur de mauvaises nouvelles ». Et on voyait un empereur très fâché, très ombrageux, avec à ses pieds un pauvre type baignant dans son sang, qui avait l'air tout ce qu'il y a de mort, et qui était en train d'apporter le message à cet empereur. Le message n'avait pas eu la chance de plaire à l'empereur, et le porteur de mauvaises nouvelles était dans cet état. C'est un petit peu ce qui arrive à
Julian Assange, le porte-parole de Wikileaks, en tout cas le plus connu. Donc lui, on le menace de tous les maux. Un éditorialiste de Fox a appelé à ce qu'il soit tué de manière extra-légale. On veut le poursuivre pour terrorisme. On envisage même de modifier la loi sur l'espionnage pour que d'autres fuites de ce type ne puissent pas se reproduire à l'avenir. Et il est empêtré dans une affaire de deux viols qu'il aurait commis en Suède. Actuellement, il est...
Ça vous semble fondé, cette accusation ?
C'est difficile à dire, évidemment. Ouais. Il y a deux témoignages qui ont été publiés in extenso par le Guardian. Enfin, j'ai aucun élément pour... voilà. Ce qui est, en revanche, tout à fait surprenant, c'est qu'une affaire d'agression sexuelle se transforme en une notice rouge d'Interpol et une chasse à l'homme sur plusieurs pays. Ça, c'est quand même rarissime que ça franchisse les frontières et que ça atteigne ses proportions.
Voilà, ce qui est un peu dommage, évidemment, les États-Unis, c'est la patrie de la liberté d'expression. Les Américains en sont, à juste titre, très fiers. Et Madame Hillary Clinton, je cite le début de votre papier, vantait la liberté sur Internet en janvier 2010, évidemment en visant les pays où il n'y a pas cette liberté. Et puis par la suite, il s'est passé ce que vous dites. Ça a été vraiment tous les moyens mis en œuvre pour... On a vu que la liberté d'expression...
Oui, c'est-à-dire que Hillary Clinton, tant qu'il s'agit de l'Iran, de la Chine, de la Russie, Internet, c'est un outil de liberté formidable. Et d'ailleurs, l'État américain appuie et soutient des initiatives donc, d'administrateurs système, de gens qui sont des spécialistes de cryptographie, etc., pour donner des relais, des systèmes de proxy qui permettent aux internautes d'échapper à la censure, qui permettent de publier partout dans le monde. Et c'était l'objet de son discours, de montrer que les États-Unis étaient fidèles à leur tradition de soutien à la liberté d'expression et allaient la promouvoir grâce à Internet partout dans le monde. Quand on commence à toucher effectivement à la guerre en Irak, à la guerre en Afghanistan et aux communications des ambassadeurs américains, là, ça devient beaucoup plus problématique.
Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe quand on sait, quand ces choses-là sont révélées ? Je voyais tout récemment un documentaire qui doit dater d'il y a 2 ans ou 3 ans sur la CIA. Et on avait toute une ribambelle d'anciens de la CIA qui venaient dire « Oui, bien sûr, on a assassiné tel gars, on a monté l'affaire tel plan en Amérique latine, au Guatemala, voilà. » Et alors, le film est visible sur Internet, ces gars-là parlent directement, à visage découvert. En quoi est-ce qu'un film comme ça, un document comme ça, change quelque chose à notre perception du monde ?
Je crois qu'il y a deux réponses. La première réponse, c'est effectivement la réponse pessimiste. Et elle serait plus ou moins suscitée par la déclaration de Gates qu'on cite dans le numéro, qui dit « Les gouvernements qui traitent avec les États-Unis le font parce que c'est leur intérêt, ni parce qu'ils nous aiment, ni parce qu'ils nous font confiance, ni parce qu'ils croient que nous savons garder un secret. » Donc là, fermer le banc, ça n'aura pas d'effet majeur. Et puis la réponse optimiste, c'est quand même d'évoquer un cas comme celui des Pentagon Papers, quand il y a eu la révélation des conditions dans lesquelles s'était organisé l'engagement américain au Vietnam. Il y a eu une réaction assez vigoureuse de la population américaine, qui a eu la révélation qu'on lui avait menti, qui s'est mobilisé. et qui a contribué à ce que la guerre du Vietnam s'interrompe, parce qu'il est évident que si la guerre du Vietnam s'est interrompue, c'est parce qu'il y a eu cette conjonction entre, d'une part, l'opposition des Vietnamiens, qui a obligé les Américains à constater que cette guerre, ils ne la gagneraient pas, et d'autre part, d'une très forte opposition intérieure aux États-Unis même, qu'on ne rencontre pas en ce moment à propos de la guerre d'Irak ou de la guerre d'Afghanistan, qui a fait comprendre aux dirigeants américains que cette voie était sans issue. Et je pense que cette opposition aux États-Unis même a dû beaucoup aux révélations des Pentagon Papers et donc à la divulgation de secrets d'État.
En tout cas, liberté d'expression pour l'Orchestre national de Jizz.
Assez, assez, on en a assez, assez, assez. Assez de fuites, fuites et de secrets. Assez de fuites et de secrets, je m'en remets pas. Une gauche de mermet, je m'en remets. Une droite de mormec, je m'en remets pas. De fuites, fuites, fuites à Cuba. Fuites par ici, fuites qu'est-ce que t'as. Quand la CIA descend un peu par là en France et te dit que ça s'est passé comme chut, chut, oh, oh, oh. Je m'en remets ou j'en me remets pas de toutes ces fuites. L'essence, je remémore à chaque fois l'essence. En éveil, en absence, jusqu'à Marseille, j'essaye de me frayer un chemin. Pas d'essence, pas d'individu. On le sait qu'on nous roule dessus. Attends, attends un petit peu, mais y'a trop de fuites, je ne peux. Trop de fuites, tout de hop, tout de hip, tout de fuites, et de fuites, 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 de fuites. Entre nous, nous sommes enfuis, nous sommes en crise de croix, crise de frappe ou froid. Il n'y a même plus de mots pour exprimer tout ce qu'on va. Stop, stop les fuites, stop, stop, les fuites, stop, les fuites.
Allons ensemble contre ces fuites.
Merci. Merci. Ok, on continue. Je vous signale un excellent papier, moi, qui m'a ravi, de Laurent Cordonnier sur une émission que vous pourrez voir le 11 janvier à la télévision et qui sera un sorte de remake de Vive la crise, qui est un film emblématique. Et visiblement, ça va recommencer, en jugé par l'analyse qu'en fait Laurent Cordonnier. Donc, Vive la crise, saison 2. Avec en sous-titre « La faute aux Chinois pauvres qui prêtent aux Américains riches ». Là, on va maintenant s'intéresser à ce qui s'est passé récemment au mois d'octobre avec Pierre Imbert, à savoir la présence des intellectuels dans cette histoire. On les a assez peu vus, surtout si on pense, et Pierre nous y fait penser, à 1995, Juppé qui vient avec son projet sur la sécurité sociale, ce qui suscite une certaine opposition, on va dire, en France, et la présence d'intellectuels comme Pierre Bourdieu, qui vient, en tant que ce qu'il est, un intellectuel, soutenir le mouvement général, et notamment celui des cheminots, en dénonçant dans les mesures et le projet gouvernemental un projet de destruction d'une civilisation associée à l'existence du service public. Je cite la déclaration fameuse de Pierre Bourdieu. Or là, dans ce mois d'octobre, on n'a pas vu quelque chose d'équivalent. Et ça intrigue Pierre Imbert, cette absence.
Oui, pourtant on peut dire que le projet de destruction d'une civilisation associée au service public s'est poursuivi depuis 1995. Maintenant, ça fait 15 ans et je pense que dans cet intervalle, on a vu deux phénomènes se produire. D'un côté, une résurgence des mobilisations sociales, et puis de l'autre, un essor des pensées critiques. D'où ce paradoxe, cet essor des pensées critiques et cette absence des intellectuels pendant le mouvement social. L'essor des mobilisations sociales, je pense qu'un certain nombre d'entre vous, d'entre nous, y ont été associés. Il y a eu novembre-décembre 1995, Daniel Lemermet en parlait à l'instant. Il y a eu aussi l'envol du mouvement altermondialiste à partir de 98, 99, 2000, etc. Les manifestations de 2003 contre une réforme des retraites, déjà, avec plusieurs millions de personnes dans les rues. La campagne contre le traité de constitution européenne en 2005, qui avait mobilisé également beaucoup de gens. les manifestations contre le contrat première embauche et la précarité en 2006, qui s'était achevé sur une victoire des contestataires. Et puis, d'un autre côté, l'essor des pensées radicales au cours de la même période, avec la publication d'un assez grand nombre de travaux critiques du néolibéralisme, critiques de la finance, de l'impérialisme militaire, des impositions culturelles, mais aussi de critiques des médias, de critiques des inégalités de genre, de critiques des formes de domination dans le travail. Bon, aujourd'hui, ça part beaucoup de livres de cet ordre sur les tables de librairie, mais il faut se figurer à quel point, il y a 15 ans, c'était assez rare. Hein, quand je crois que c'est un livre qui s'appelait « L'horreur économique » de Viviane Forrester, était sorti en 1993. Bon, c'est un livre assez commun, et l'idée de s'en prendre à la pensée unique, à l'économie, l'idée que ce n'était pas naturel, était une idée à l'époque assez saugrenue par rapport aux années 80. Intensité donc des mouvements sociaux d'un côté, vivacité des pensées contestataires de l'autre, et pourtant tout se passe comme si la charnière entre les deux était rouillée, comme si on n'arrivait pas à articuler cet essor des mouvements sociaux et cette vivacité des pensées critiques. Et bon, l'une des manifestations de cette mauvaise articulation, c'est, il me semble-t-il, l'absence des intellectuels pendant les manifestations de cet automne. Et l'hypothèse qui est avancée dans l'article, c'est que si d'un côté, ces pensées critiques, elles se multiplient, elles s'aiguisent, de l'autre, elles se spécialisent, et ceux qui les produisent s'alignent de plus en plus sur les normes en vigueur dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. En d'autres termes, ces pensées critiques s'institutionnalisent, et ce faisant, elles vont peu à peu se couper des forces sociales. À vrai dire, il y a un fait auquel on porte presque plus attention, tant il nous paraît aller de soi, c'est le fait que la plupart des intellectuels contestataires aujourd'hui sont liés à l'université ou au monde de la recherche. Évidemment, ça ne signifie pas qu'une traînée de poudre est en train de parcourir les institutions académiques. Les intellectuels contestataires, ils sont en toute petite minorité. Mais il n'en reste pas moins que la plupart des producteurs de théories critiques actuellement sont liés à l'université. Et on va les retrouver dans des rédactions de revues critiques, on va les retrouver dans des petites maisons d'édition indépendantes, ou à la tête de collections d'ailleurs de grandes maisons d'édition industrielles, qui produisent également des livres critiques. On en retrouve aussi au monde diplomatique, d'ailleurs, il faut bien l'admettre. Et ce constat appelle, à mon avis, une remarque et une question. La remarque, c'est que, d'abord, il n'en a pas toujours été ainsi. Toute l'histoire du mouvement ouvrier montre l'importance de personnages qui étaient à la fois des intellectuels et aussi des dirigeants politiques, des dirigeants de partis. Lénine, Rosa Luxembourg, sans parler évidemment de Marx ou de Bakounine, c'était des personnages qui s'investissaient dans la direction de partis, dans des questions stratégiques liées à la conduite de mouvements, et en même temps des intellectuels qui réfléchissaient à des questions théoriques sur l'impérialisme, sur le salariat, etc. On a eu aussi des grands penseurs qui n'avaient pas suivi d'études supérieures, comme Proudhon, et pendant presque un siècle, les formations de gauche ont produit leurs propres intellectuels, avec par exemple les bourses du travail pour le mouvement anarcho-syndicaliste, avec par exemple les centres de formation pour les partis sociaux-démocrates européens. C'était des intellectuels qui réfléchissaient avec les outils de la science, si tout se passait bien, mais sur des problématiques proprement politiques, des problématiques qui n'étaient pas nécessairement dictées par l'université, par les institutions académiques, mais par des questions proprement politiques. C'était des intellectuels qui, en théorie, était capable d'interpréter le monde de diverses manières, comme dirait Marx, mais également de s'intéresser aux manières concrètes de transformer le monde. Bon, cette manière de produire des intellectuels, les institutions qui produisent ces intellectuels ont peu à peu disparu.
Daniel ?
Ouais.
I wanna say, nobody is perfect.
Perfect, l'anatomie humaine is perfect. Tout ce qu'on peut te dire sur scène is perfect. Les musiciens, perfect. Le buzz internet, perfect. Le gouvernement français, perfect. Mama Africa! Perfect, perfect. You and me, perfect. La Java de Belleville, perfect.
l'atelier du plateau. Perfect, la nouvelle revue vivante est perfect. Là-bas, si j'y suis, c'est ici, perfect. C'est maintenant et toujours mon amour. Perfect, les troubadours.
Hey, hey.
Perfect, même avec un accent comme ça. Perfect, oui, oui, non, non, perfect. Perfect, Indian, perfect, music, perfect.
On en a marre, on en a marre que toutes les publicités, on en a marre que toute la télévision, tous les jours, tu nous fais passer pour des gens imparfaits. Nous, on veut de l'amour pour toujours, pour dire que tous, on t'aime et tous, on est parfait. Parce que le corps, il est parfait. Le cœur, c'est pour faire de l'amour. C'est vrai, c'est parfait. Alors moi, je suis venu faire du fruit jazz contre le processus inexorable de pourrissement. Et je vais rentrer au processus en faisant de la musique en te disant que tu es tous parfaits.
Perfect. Everybody is perfect. La Java, perfect. France culture, perfect.
Hey, hey!
Perfect. If you want, you are perfect. If you eat, perfect.
Smoking!
Perfect.
Do it, do it!
Perfect. Perfect.
Bravo! On continue avec le dossier de ce mois-ci du diplôme qui est consacré aux extrêmes droites. Et ça commence par une série de chiffres sur les scores réalisés par l'extrême droite dans plusieurs États européens, la Belgique. L'extrême droite arrive à 17,1%, la Bulgarie 12%, la France 10%, la Hongrie presque 15%, les Pays-Bas 17%, la Norvège presque 23%. Sans parler de l'Italie, le nord de l'Italie, la Ligue du Nord, sans parler de la Suisse, etc. Alors, on a de quoi, évidemment, s'inquiéter. Et Dominique Vidal a dirigé et articulé un dossier particulièrement passionnant sur l'évolution de cette extrême droite. Et puis, il y a une petite phrase, là, qui est une citation de Marine Le Pen, qui dit « J'entends de plus en plus de témoignages sur le fait que dans certains quartiers, il ne fait pas bon être femme, ni homosexuel, ni juif, ni même français ou blanc. » Alors, ça indique peut-être des changements de masque, des changements de stratégie. Mais ce qui est commun, dites-vous, Dominique Vidal, c'est les deux cibles de ces extrêmes droites, elles ont au moins quelque chose en commun, c'est l'islam et le social.
Alors, on a fondé un peu le dossier, on en a discuté longuement, comme on fait souvent dans la rédaction, sur trois faits. Le premier fait, j'y reviens pas, vous l'avez dit, Daniel, c'est la percée électorale de l'extrême droite, je garde ce terme pour l'instant par facilité, en Europe, à la fois aux élections européennes de 2009 et dans une série de pays depuis lors d'élections nationales. Et pour certains pays, c'est durable. Ce n'est pas un feu de paille. Deuxième fait sur lequel on s'est appuyé, c'est le fait que cette extrême droite, en tout cas celle qui réussit, elle est très bizarre par rapport aux traditions qu'on lui connaît. Par exemple, le machisme, qui est quand même une donnée majeure des mouvements d'extrême droite depuis très longtemps, depuis les foyers originaux fascistes et nazis, par exemple, ben on va avoir sans doute, je ne crois pas révéler un secret, une femme qui va diriger un des principaux partis d'extrême droite en Europe, c'est-à-dire le Front National. Alors, vous me direz, c'est la fille de son père, mais enfin, c'est une femme. C'est une extrême droite qui nous avait habitués à être ultra-catholique, très moraliste, etc. Et comme Daniel vient de le dire, non seulement elle défend les droits des homosexuels, mais on a des homosexuels affichés comme tels, c'est pour ça que j'en parle, sinon j'en parlerais pas s'ils ne s'affichaient pas comme tels, qui sont devenus le premier dirigeant, Pim Fortuyn, en l'occurrence, d'un grand parti d'extrême droite. Ça aussi, c'est inimaginable. Enfin, moi, j'ai connu, quand j'étais jeune, l'extrême droite, on la reconnaissait qui faisait la chasse aux gauchistes ou aux communistes au quartier latin, mais aussi qui faisait la chasse aux PD dans les banlieues. Donc, je veux dire, on n'est pas dans la tradition d'extrême droite. On a une extrême droite qui, quand même, était très complaisante à l'égard de l'antisémitisme ou du négationnisme, historiquement. Et la voilà, tout d'un coup, qui se réunit tout ensemble, 35 dirigeants, et qui va rendre visite à l'État d'Israël, qui est reçu à la Knesset, qui parle... Pas avec Netanyahou, mais avec Lieberman,
oui,
qui se ressemble, s'assemble.
Hein, ouais, c'est ça, c'est quand même pas un gauchiste.
Ah oui, il serait même un peu à droite de Le Pen, à part l'antisémitisme, je veux dire. Hein. Bon. Donc, on a une extrême droite, non seulement qui réussit, mais qui présente des caractéristiques inhabituelles par rapport à ce qu'on connaît, nous, je parle y compris les moins jeunes d'entre nous, qui avons connu une extrême droite un peu plus typée, si je puis dire. Troisièmement, on a une extrême droite qui était quand même très néolibérale, en Europe globalement, qui défendait l'ultra-capitalisme, on peut dire. Et là, on a une extrême droite qui fait volontiers du social. Et c'est ça qui est intéressant. C'est au fond, quand on a discuté la première fois du dossier, avant de le faire, on s'est dit les nouveaux visages de l'extrême droite européenne. Et en fait, si on prenait chacun des mots de cette expression, chacun pose problème. Est-ce que c'est nouveau d'abord ? C'est pas évident. L'extrême droite a toujours eu une capacité d'adaptation. Par exemple, on va parler du social en deux mots, mais Doriot, qui venait du communisme, ou Déa, qui venait de la social-démocratie, ils ont fait leur chemin vers l'extrême droite et vers la collaboration et vers les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Hein. Mais je veux dire, ils ont fait ce chemin-là à une autre époque. Donc on n'est pas complètement dans le social en dehors de l'habitude, des traditions, d'adaptation de l'extrême droite à une situation de crise. De la même manière, les rapports entre l'extrême droite et le sionisme, il faut savoir que le numéro 2 du mouvement sioniste en Palestine, en 1933, c'est-à-dire en juillet-août 1933, il va à Berlin signer un accord pour permettre l'émigration des Juifs allemands vers la Palestine.
J'entends déjà les messages.
Oui, mais c'est la vérité, ça s'appelle l'accord de la Ahavara. Le signataire s'appelle Chaim Arlosorov et il signe avec les dirigeants du Troisième Reich. C'est un fait. On peut d'ailleurs lui rendre hommage puisqu'il a contribué à ce que des dizaines et des dizaines de milliers de Juifs allemands puissent échapper à l'Holocauste. Donc on est quand même dans quelque chose de plus complexe que ce qu'on a pu dire. Mais bon, extrême droite, de quoi on parle ? Alors il y a une première famille, celle-là elle est clairement identifiée, qui est restée néofasciste, je dirais canal historique. Et ils n'ont pas grand succès électoral, ceux-là. C'est les Républicaineurs en Allemagne. C'est vrai de la phalange, je l'ai dit au passage. C'est vrai du parti britannique, du parti national britannique. C'est vrai. Bon, on a une vieille extrême droite néofasciste qui ne réussit pas électoralement comme l'autre. On a deuxièmement, depuis les années fin des années 80, une extrême droite qui a voulu rompre le cordon ombilical qui l'a relié au nazisme et au fascisme pour briser le cordon sanitaire, excluant l'extrême droite qu'on a connue. Par exemple, en Belgique, ça existe toujours à Anvers, hein, mais qu'on a connu aussi en France, après de longues années où le RPR et l'UMP ne savaient pas trop s'il fallait s'allier ou pas s'allier, et s'allier quand il fallait souvent garder des régions. Vous avez le modèle, si vous voulez, de cette extrême droite devenue respectable, devenue de droite, même pas dure, qui est Gianfranco Fini, que moi j'ai vu, de mes yeux vus, à Rome, défiler en chemise noire, le bras levé, il y a quelques temps, évidemment, et qui, aujourd'hui, est considéré par la presse italienne comme le gendre idéal. Parce qu'il a cette espèce de conscience, de morale. Enfin, la conscience morale ne l'empêche pas de mettre la main dans des choses. On va commémorer l'été prochain les 10 ans du sommet de Gênes. J'espère que ce sera l'occasion de savoir quel a été le rôle de Gianfranco Fini, personnellement, dans cette répression terrible où le jeune Giuliani est mort. Et puis vous avez après une troisième famille, que moi j'appellerais celle des ovnis, comme cet ovni néerlandais. Un homme comme Wilders ne fait pas le détail. Lui, ce n'est pas le terrorisme qu'il combat, ce n'est pas l'islamisme, ce n'est même pas l'islam, c'est le Coran. Il veut interdire le Coran. C'est son objectif. On n'est évidemment pas dans une tradition très laïque aux Pays-Bas, mais quand même, il y avait une tradition de tolérance. C'est incroyable de tenir des discours pareils. Alors là-dedans, juste un mot pour finir, autour de Marine Le Pen. Au fond, Marine Le Pen voudrait réussir en France ce qu'a fait Gianfranco Fini en Italie, c'est-à-dire un grand parti de droite respectable qui devienne incontournable et avec lequel la droite traditionnelle s'allie pour garder le pouvoir, mais sans faire les renoncements au noyau fasciste, néo-fasciste, historique, auquel elle ne veut pas renoncer. Et en fait, son modèle, c'est Haider. Sauf que Haider n'a pas réussi. Et donc, ça l'amène à trois choses importantes, à mon avis, qu'il faut noter. La première chose, c'est qu'elle ne parle plus de la Seconde Guerre mondiale, du point de détail, des chambres à gaz, du négationnisme. C'est-à-dire, tout ce qui était l'espèce de nature de son papa, cette page est tournée. Par contre, on l'entendra parler de la Deuxième Guerre mondiale, à propos des musulmans. Puisque quand des musulmans n'ont pas de mosquée, et comme ils n'ont pas de mosquée, et c'est vrai qu'en France, on manque de mosquées, tous ces musulmans qui n'ont pas assez de mosquées pour prier, qui prient dans les rues, ils sont comparés par Marine Le Pen à l'occupation, tranquillement.
Ce qui est déjà insolite, parce qu'avant, l'occupation, ce n'était pas une référence diffamatoire, oui. Une tare.
Ça, c'est, voilà, les Le Pen parlent toujours de la Seconde Guerre mondiale, disons père et fille, mais le père était sur un aspect et la fille sur un autre. Hein. Je suis d'accord avec Serge. Troisième élément de Marine Le Pen, très important, c'est le discours social. Et moi, je vous incite, si vous en avez l'occasion, à aller voir sur Internet, on le cite, mais on ne le cite pas en complet, le discours intégral de papa Le Pen, le 1er mai 2010. C'est un discours non seulement où il s'en prend au capitalisme financier mondialisé, non seulement il dit qu'il faut relancer l'économie par la consommation, non seulement il dit qu'il faut défendre l'ensemble des mécanismes d'aide sociale, mais il dit, c'est assez incroyable à entendre, ma fille m'a dit, parle de Jaurès, pas de Marché. Et il dit, mais moi, je pourrais parler de Georges Marché parce que jusqu'à ce qu'il trahisse en s'alliant avec les socialistes et en liquidant les acquis de la classe ouvrière, etc., etc., il disait des choses pas mal, notamment le produire français. Et on entend Marine Le Pen, qui écoute beaucoup plus son papa qu'on ne croit, reprendre toute cette thématique sociale, sauf que là, il y a un petit truc, c'est qu'il y a le miracle, comment on va financer tout ça ? Eh bien, on met fin à tout cet argent que nous volent les immigrés.
Ben bien sûr,
et voilà. Et donc, on a l'État social qui rime avec la préférence nationale. Et ça, c'est l'un des deux trucs, entre guillemets, électoraux, sur lequel, sans aucun doute, Marine Le Pen va faire campagne, l'islamophobie, qui a même des partisans à gauche, comme on sait, et puis le social, qui donne un visage au Front National, qui le rend acceptable pour une partie des couches populaires les plus martyrisées, je dirais, par la crise.
Voilà, et ça nous remonte le moral pour ce début d'année. Bon, et bien alors, l'Orchestre National.
Donc à l'endroit comme à l'envers, sur les côtés comme par derrière, c'est clair. Va voir là-bas si j'y suis. Je m'appelle Karim, j'ai 38 ans, et je suis d'origine bretonne, et surtout algérienne.
Bonsoir, je m'appelle Jaime, j'ai 20 ans, je suis français d'origine espagnole.
Bonsoir, je m'appelle Pierre, j'ai 36 ans et je suis français d'origine alsacienne.
Et nous sommes musiciens. Ah oh oui, la musique, qu'est-ce que c'est que la musique?
Moi, depuis tout petit, on va dire que la
musique. À chaque fois, je voulais vous dire que d'être français, d'être, au fond, c'est d'être français, puisque nous sommes français. Alors qu'est-ce que c'est que d'être français aujourd'hui? Mais qu'est-ce que... Bah, vous savez, moi, je vous expliquais qu'avant, un bonbon coûtait 10 centimes, et aujourd'hui, un bonbon coûte 10 centimes. Donc il s'est passé quelque chose 6,55 fois. J'aurais voulu qu'on me la mette dans l'extrême 7 fois, ou jusqu'à l'extrême 6 fois. Mais pourquoi 0,58? Il me reste un petit morceau là qui est coincé entre mon. Vous voulez couper le courant ou le Coran de la Hollande? J'ai pas compris qu'est-ce que vous voulez faire exactement, parce que moi je voudrais juste que vous dire que j'ai pas peur de tous ces musulmis, parce qu'ils sont très gentils, parce qu'ils font du couscous. Oui oui, alors on dit qu'ils font pas de mal à une mouche, mais bah, c'est pas grave s'ils égorgent les moutons, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais vous avez peur de quoi? Vous avez peur de vous? Vous savez, one, two, three, vive l'Algérie, vive la Picardie aussi. Mais on a pas de problème même d'avant. Mais voyez, qu'est-ce que vous racontez? Je reste chez moi avec mon internet et vous savez, je ne crois plus en rien du tout. J'ai honte de faire baisser les bruits de pâtes qui reviennent sur l'Europe. Je sais pas, j'ai envie de vous dire fuck. J'ai envie que Brigitte Bardot, mais Nicolas a cité Jaurès. C'est pas le français. Francis, Francis, François, François, Francinette, dégager les petits méchants en attendant le retour des grands bons.
Bravo, merci. On écoute le dimanche après-midi sur France Inter une émission, sans doute une des meilleures émissions de cette antenne qui s'appelle L'Afrique enchantée et qui est animée notamment par Vlad, on l'appelle Vlad, Vladimir Cagnolari, avec Soro Solo. Vous connaissez évidemment cette émission, on se demande d'où il sort tout ça, ces deux gars-là. Alors, Soro Solo, bon ben, il est africain, donc il est dans le bain. Mais enfin, Vladimir, c'est un petit peu plus étonnant. La raison, c'est que Vladimir est journaliste et qu'il connaît assez bien ses terrains et ses sujets. Il en donne une démonstration courageuse et valeureuse dans le diplôme de ce mois-ci, en essayant de nous faire comprendre à nous ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Si on avait les moyens de faire des sondages vraiment pointus, je serais curieux de savoir combien de Françaises et de Français comprennent ce qui se passe dans ce pays, étant donné les informations que nous avons. Mais sans être trop méchant avec nos confrères, il faut bien dire que c'est assez long d'expliquer ce qui se passe dans un pays comme celui-là. Mais Vladimir a la chance d'avoir deux pages dans le monde diplomatique pour expliquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire et comment Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Henri Conan Bédier sont les trois héritiers d'un même papa.
Voilà, c'est encore une histoire de famille, un peu comme ce que disait Dominique tout à l'heure, et on n'est pas très très loin, on y reviendra peut-être tout à l'heure, des alliances assez étranges entre le nationalisme et le socialisme. Mais s'ils sont bien les fils tous du même papa, c'est évidemment du père de la nation, le guide fondateur, comme dit souvent Solo, élu à l'unanimité plus une voix, Félix Houphouët-Boigny, qui a été dirigeant du pays de 1960 à 1993, donc pendant 33 ans. Autant dire qu'il a façonné la Côte d'Ivoire, et il l'a façonné dans une intelligence très profonde avec la France. Je pense qu'il faisait partie de ces dirigeants africains qui n'avaient pas résolument envie de se débarrasser des rapports avec l'ancien colon. En fait. Et d'ailleurs, on lui attribue souvent l'expression « la France-Afrique », que lui voyait comme quelque chose d'éminemment positif d'une interdépendance dans la dépendance entre la France et l'Afrique. Voilà, c'était sa façon de concevoir la France-Afrique qui bénéficiait à tout le monde, d'après lui. Or, ces trois ténors politiques, ces trois éléphants, hein, pour reprendre l'emblème de la Côte d'Ivoire, ce qui est intéressant dans cette histoire de famille, c'est qu'ils sont tous les jouets, pour ainsi dire, ou les créatures d'Houphouët. Henri Conan Bédier, qui a longtemps occupé le poste de président de l'Assemblée nationale, qui était un petit peu le dauphin naturel d'Houphouët, il vient de la même région, il est baoulé comme Houphouët-Boigny, et avec le long règne du vieux, comme on l'appelait affectueusement en Côte d'Ivoire, il s'est posé un moment la question de sa succession. Or, depuis 17 ans maintenant, depuis la mort du vieux donc, se pose la question de la succession de la Côte d'Ivoire et on est toujours dedans. C'est pour ça qu'on est obligé de remonter en arrière et de dépiauter ces histoires de famille. Donc, pour Henri Conan Bédier, donc, il a été désigné comme dauphin naturel puisqu'Houphouët a dû introduire une modification dans la Constitution indiquant que le président de l'Assemblée nationale deviendrait son dauphin et son successeur en cas de décès du père de la nation. Sauf que, au début des années 90, Houphouët-Boigny, après 30 ans de parti unique, parce qu'évidemment, il développait la thèse selon laquelle le multipartisme, en fait, serait un multitribalisme, et donc qu'il fallait, pour ces jeunes nations, rester dans le parti unique. Il prenait d'ailleurs soin de faire un savant équilibre géopolitico-ethnique pour que chaque région ait son représentant, etc. Et donc, Houphouët-Boigny est obligé de lâcher du lest après le discours de la Baule, après la chute du mur, bien sûr, hein, le discours de la Baule, prononcé par François Mitterrand, qui disait que la France apporterait son soutien aux pays qui se démocratisaient. Et donc, il lâche du lest, le multipartisme est réintroduit, et puis c'est la période aussi où la Côte d'Ivoire est en crise. Le miracle ivoirien, celui que moi, par exemple, j'ai appris à mon programme de terminale, basé sur le succès du cacao et du café, est en train de s'effondrer totalement, les cours sont au plus bas, et donc, à ce moment-là, fondent sur la Côte d'Ivoire les institutions financières internationales, et Houphouët-Boigny est obligé de remettre de l'ordre dans tout ça, et il fait venir celui que j'appelle, pour le différencier d'enfant gâté, qui est Henri Conan Bédier, qui a toujours suivi Papa Houphouët, Alassane Ouattara, donc, qui lui vient directement du FMI.
C'est l'Américain.
Voilà, on l'appelle l'Américain. D'ailleurs, souvent, plus tard, on verra que les journaux ivoiriens titrent Alassane l'Américain. Et pour remettre de l'ordre dans tout ça, appliquer les plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale, et puis en même temps remettre un peu de l'ordre dans les finances publiques, parce qu'il faut quand même dire qu'à la fin du règne d'Houphouët, c'était gâté, comme on dit au pays. Donc Alassane vient mettre de l'ordre dans tout ça, et en même temps, il arrive donc dans le jeu politique ivoirien comme une espèce de pièce rapportée. Voilà un fils d'un mariage bizarre, contracté, on ne sait où, puisqu'on ne le connaissait pas si bien que ça avant, dans le marigot politique ivoirien. Donc, il vient faire ce travail. Il y avait un troisième fils qui était arrivé, celui qu'on pourrait appeler le fils rebelle, Laurent Koudou Gbagbo. Alors, il faut dire qu'il vient d'une région qui a été bien maltraitée par Houphouët-Boigny, la région de l'Ouest, où il y avait une répression terrible d'une première révolte au début des années 70 que Houphouët avait maté dans le sang. avec un premier leader indépendantiste qui s'appelait Krak Beniakbe et qui était très farouchement anti-français. Très farouchement anti-français, Soufouet-Boigny, ça veut dire très farouchement anti-oufouet aussi. Bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Laurent Gbagbo déboule dans le jeu politique. Il a été longtemps opposant, il s'est fait emprisonner plusieurs fois. Alassane Ouattara lui-même le fout en prison pendant la période 90-93 où l'agitation sociale fout le pays en ébullition. Et donc, on a maintenant ces trois fils qui sont là. Sauf que Laurent Gbagbo, c'est pas le fils d'Oufouet. En tout cas, c'est pas ce qu'il dit. 93, le vieux meurt. 95, première élection après la mort d'Oufouet-Boigny. Hein. Henri Conan Béhi n'a fait que terminer son mandat. On invalide la candidature d'Alassane Ouattara au motif d'ivoirité douteuse. C'est à ce moment-là que le concept est forgé. Ouais. Hein, parce qu'il faut bien dire qu'Alassane Ouattara et Henri Conan Béhi étaient dans le parti unique, dans le parti d'Oufouet. Ils sont tous les deux des dignes fils. Mais pour écarter Alassane Ouattara, il a bien fallu trouver un argument. Et on a été chercher, inventer des origines étrangères qui vont empoisonner la vie politique de toute la Côte d'Ivoire, mais bien plus la vie sociale de la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. 95, donc, Ouattara est invalidé. Gbagbo boycotte l'élection en s'alliant avec Ouattara, qui l'a foutu en prison 2 ans avant. Et donc, on arrive maintenant aux élections de 2000. Sauf que l'ivoirité a fait du chemin, entre-temps. L'ivoirité a fait du chemin. Elle s'est installée dans le pays. Et au-delà du cas Ouattara, deviennent suspectes toutes ces populations du Nord qui, comme lui, Koulibaly, Touré, que sais-je encore, Traoré, tout ça, c'est des noms qu'on retrouve au Burkina Faso, au Mali, en Guinée voisine. Hein, puisque avant que la colonisation n'arrive, les ethnies étaient dispersées de part et d'autre de la frontière. Et donc tous ces gens-là vont se retrouver suspects d'ivoirité douteuse, d'être des étrangers. Donc ce qui va se passer concrètement, c'est qu'on va peu à peu essayer de les priver de leur nationalité, de leurs droits civiques. Ils se retrouvent étrangers dans leur propre pays. Ça devient assez explosif. Les élections de 2000 arrivent. Alassane Ouattara, toujours invalidé. Même problème, hein, il n'est toujours pas vraiment ivoirien. Donc, du coup, Béhi aussi, qui s'est fait entre-temps déposer par un coup d'État, est invalidé lui aussi. Il reste Laurent Gbagbo et puis le général Guéhi qui a déposé Henri Conan Béhi.
J'avais oublié,
vous ne me suivez plus, hein, vous ne me suivez plus.
Si. Moi, j'ai pris des notes.
Et donc, à ce moment-là, ce qui est très intéressant sur l'élection de 2000, justement, c'était il y a tout juste 10 ans, c'est que c'est le miroir inverse exactement de ce qui vient de se produire. Il y a quoi ? Un mois tout juste, le 28 novembre, au moment du deuxième tour des élections. C'est-à-dire qu'on est dans un cas de figure où le général Guéhi, qui est sûr qu'il ne va pas pouvoir vraiment gagner, décide de confisquer les élections. Donc alors, ce qu'il fait, c'est qu'il retarde le travail de la commission électorale indépendante. Il va même jusqu'à l'intimider et voire carrément la faire arrêter pour aller se proclamer président de la télévision. Panique. Laurent Gbagbo, qui n'a pas accès aux médias d'État à cette époque-là, décide du coup de lancer ses militants dans la rue, aidé en cela par la seule radio d'importance à laquelle il pouvait avoir accès à l'époque, qui était RFI, qui émettait à Abidjan. À ce moment-là, donc, Laurent Gbagbo lance ses partisans dans la rue qui vont réussir à chasser les quelques partisans de Guéhi, l'armée, les militaires qui lui sont fidèles. Et Laurent Gbagbo est aidé par la gendarmerie qui se rallie à lui, notamment parce que les partisans de Ouattara subitement se mettent à descendre dans la rue eux aussi pour réclamer les élections où leur candidat pourra participer. Résultat, un massacre, un charnier, Diop Pougon, une cinquantaine de morts découverts dans une commune périphérique d'Abidjan. Et ça, c'est aussi un moment fondateur qui va amener ensuite la rébellion de 2002. L'élection qui suit, c'est celle de 2010, celle qui est censée mettre fin à toute cette guerre, où il y a eu des exactions de part et d'autre, hein, ça il faut quand même le signaler. Cette élection qui permettrait enfin à la Côte d'Ivoire de sortir de ces années de crise, et bien voilà qu'on se retrouve dans une situation inverse. C'est-à-dire que, concrètement, Laurent Gbagbo dispose cette fois-ci, lui, à la place du général Guéhi, du média d'État, la RTI. Alassane Ouattara, l'Américain, a effectivement beaucoup plus de connexions internationales et une sympathie de pas mal de dirigeants qu'il a côtoyés, il est vrai. Toujours est-il que la commission électorale, son travail est freiné. On a tous vu l'épisode des commissaires du camp Gbagbo qui viennent déchirer les procès-verbaux des résultats provisoires et la télévision ivoirienne qui a foutu le camp pour ne pas diffuser ça. Et donc, cette commission électorale prononce la victoire de Ouattara. Et juste après, le Conseil constitutionnel renverse les résultats. Et c'était Ouattara qui s'était proclamé entre-temps président sur RFI et Laurent Gbagbo, la télévision ivoirienne. Donc on est vraiment dans une situation de miroir inversé. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois fils d'Oufouet-Boigny qui ont fait campagne pour ces fameuses élections, ils avaient bien compris que leur palabre, leur conflit entre eux et la fameuse histoire d'ivoirité, finalement avait entraîné la Côte d'Ivoire dans un tourment inouï dont les Ivoiriens, s'il y avait une chose en tout cas qui les réunissait, c'était sortir de cet état de guerre. Et on se mettait à re-rêver du temps d'Oufouet-Boigny, parce qu'effectivement, il y a eu de très belles années pour la Côte d'Ivoire du temps d'Oufouet-Boigny. Et Oufouet-Boigny, son programme politique majeur, c'était la paix. D'ailleurs, des fois, c'était un peu court, mais enfin, c'était la paix. Toujours est-il que tout le monde se met à revendiquer, parmi ses trois fils, l'héritage d'Oufouet-Boigny, y compris Laurent Gbagbo, son meilleur opposant. Or, il se trouve quand même que Laurent Gbagbo essaye aussi, à travers la référence à Oufouet-Boigny, de récupérer, qu'on le veuille ou non, un des blocs importants ethnolinguistiques ivoiriens, qui est les Baoulés, les Akans, en fait, qui sont du centre, comme Henri Conan-Bédier. Alassane Ouattara, à cause de cette ivoirité qui avait finalement réinstallé l'ethnicité en Côte d'Ivoire, à les gens du Nord et Laurent Gbagbo, les gens du Sud. On se retrouve dans ces cas-figures-là. Donc à travers cet héritage d'Oufouet-Boigny se jouait à la fois le rêve du temps perdu de la paix, mais aussi cette espèce de jeu d'équilibre entre qui possède les alliances avec tel ou tel groupe pourra remporter l'élection. Il y a tout ça qui se joue dedans. Puis allez, j'en terminerai sur une chose que je trouve assez étonnante, parce qu'on on est dans une telle accélération là, de la communication de part et d'autre, côté Ouattara, côté Gbagbo, qu'on a déjà tous oublié que le fameux Conseil constitutionnel, puisque l'argument majeur de Laurent Gbagbo, c'est de dire la constitution ivoirienne ne doit pas être bradée, c'est le Conseil constitutionnel qui a le dernier mot, ce qui est vrai. Sauf que le Conseil constitutionnel a bizarrement oublié que dans le code électoral ivoirien, l'article 64 précise qu'en cas d'irrégularité importante entachant la sincérité du scrutin, le Conseil constitutionnel doit réorganiser un scrutin dans les 45 jours. Nulle part, on l'a entendu.
Vladimir Cagnolari, Philippe Rivière, Serge Halimi, Dominique Vidal et Pierre Rimbert. Vous avez la suite dans le numéro du Monde Diplomatique de ce mois-ci et on va finir en musique avec l'Orchestre National de Jazz. Merci à tous. Voilà, merci à tous. Merci aux musiciens Pierre Lamblard, Jaime Chao et l'Orchestre National de Jazz. Merci à Mani, Christine et Mansour de la Java. Merci aux techniciens de France Inter. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Coy Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Lebot et Marina Touillez. Attend vos appels sur le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Nos technos d'aujourd'hui, c'est Sophie Moreno et Patrick Henry. Et à la Java, c'était Sébastien Huel et Benjamin Tuo. Voilà, il est 16h20 sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.
Les propositions se multiplient pour sortir pacifiquement de la crise politique en Côte d'Ivoire. Le médiateur de l'Union africaine annonce que Laurent Gbagbo bénéficiera d'une amnistie s'il accepte de se retirer de la présidence. Il pourrait même être autorisé à rester en Côte d'Ivoire. Déclaration dans le même sens du président élu Alassane Ouattara, reconnu par la communauté internationale comme seul président légitime. Dans une interview à France 24, Alassane Ouattara dit préférer une solution pacifique à une intervention militaire et déclare également que Gbagbo pourra rester en Côte d'Ivoire. Mais selon le président élu, la situation ne peut plus durer très longtemps. Il rend également hommage à l'armée ivoirienne pour sa retenue dans cette crise, mais fait état d'assassinats et de viols dans les quartiers populaires d'Abidjan. Pas de réaction pour l'instant du côté de Laurent Gbagbo. Nicolas Sarkozy exprime la solidarité nationale avec la Guadeloupe. Les pluies diluviennes qui tombent depuis deux jours ont fait 4 morts et 1 disparu. 5 passagers d'un 4x4 emportés par les eaux sur un pont dans la commune des Abîmes, au centre de la Grande Terre. Le chef de l'État a demandé à la ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce Pinchard, de partir dès aujourd'hui pour les Antilles. Nicolas Sarkozy doit se rendre en Martinique et en Guadeloupe vendredi pour présenter ses vœux. Une alerte de niveau orange de Météo France est en vigueur depuis ce matin en Guadeloupe. Toyota recrute. Le constructeur automobile japonais va embaucher 300 intérimaires et une centaine de CDI sur son site d'Oning, près de Valenciennes, dans le Nord. La direction prévoit une légère remontée de la demande pour les mois qui viennent. Écoutez la satisfaction prudente de Fabrice Cambier, délégué force ouvrière chez Toyota Oning.
C'est pas négligeable, d'autant plus que c'est quand même des emplois en CDI, des embauches fermes. Mais sans CDI en plus, c'est tout simplement ce qu'on a perdu depuis janvier 2010. Donc pour nous, c'est oui, c'est bien, mais ça ne compensera pas réellement, tout simplement, les gens qui ont été tant soit peu licenciés, voire qui ont démissionné parce qu'ils étaient à bout de leur travail, parce qu'ils ne pouvaient plus suivre également les cadences. Je pense que ça, il faut le dire, hein, parce que bon, sans CDI, c'est un minimum, parce qu'ils peuvent faire beaucoup plus. Et les intérimaires, on revient à une situation identique il y a un an, parce que l'année dernière, il y en avait à peu près 600. Mais en termes de vente ou de prévision, on n'a aucun chiffre pour le moment.
Propos recueillis par Frédéric Denis de France Bleu Nord. En revanche, le premier fabricant français de panneaux photovoltaïques, Photowatt, supprime 95 emplois sur son site de Bourgoin-Jallieu en Isère. L'entreprise est une filiale du groupe canadien ATS. Raison invoquée, la concurrence asiatique et son rendement bien supérieur au site français. C'est une première, la CGT n'ira pas écouter les vœux du président de la République aux forces vives, prévues demain à l'Élysée. La centrale syndicale entend marquer son mécontentement après la réforme des retraites en refusant de participer à ce qu'elle qualifie de simulacre. Le PDG d'Aéroports de Paris se défend d'être à l'origine de la pagaille à Roissy à la veille de Noël. Sur France Inter, Pierre Graff s'est dit prêt à suréquiper l'aéroport parisien au nom du principe de précaution pour faire face à des hivers rigoureux. Selon lui, les conditions météo exceptionnelles sont la cause de ces difficultés et pas la pénurie de glycol, ce produit qui sert à dégivrer les avions. Un rapport sur les dysfonctionnements à Roissy sera remis lundi à la ministre des Transports, Nathalie Kosciusko-Morizet. Le quotidien La Tribune, en procédure de sauvegarde. Cette procédure judiciaire permet de geler les dettes du journal pendant 6 mois. Le quotidien économique rencontre de graves difficultés financières. Il cherche des investisseurs pour une recapitalisation du titre à hauteur de 15 millions d'euros.
Dans le cadre de la science-fiction, on peut aller aussi loin qu'on veut et on ira toujours, toujours, toujours plus loin parce que le temps et l'espace n'ont pas de limite.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec Gwenaëlle Abolivier.
Ce mercredi, nous plongeons dans les archives sonores avec un explorateur du temps et de l'espace qui nous embarque pour un voyage dans le futur. Rendez-vous avec un maître de la science-fiction, l'auteur de Ravage et de La Nuit des Temps, René Barjavel, ce soir à partir de 21h.
France Inter, partenaire de la rétrospective d'Alfred Hitchcock à la Cinémathèque française à Paris et à l'Institut Lumière à Lyon.
Hello.
La mort aux trousses, le crime était presque parfait, Psychose, mais aussi Agent secret ou numéro 17.
Hello.
Les chefs-d'œuvre et les raretés du maître absolu du suspense, à voir ou à revoir.
If you spend your evenings watching murder,
à retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
You may recognize this.
France Inter. France Inter.
La différence.
16h05 sur France Inter, l'heure de Frédéric Lodéon et de son carrefour de Lodéon. Bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, c'est jour de congé pour les jeunes, les enfants, et je vous propose donc pour cela, et en plus c'est très intéressant, la nurserie d'Ingelbrecht. Ingelbrecht, Désiré Émile, de ses deux prénoms, c'est un chef d'orchestre assez fameux, c'est lui qui a créé en 1934 l'Orchestre National de la Radiodiffusion Française, aujourd'hui Orchestre National de France, et il a repris des petites chansons qu'il a harmonisées pour piano à quatre mains. Voici par exemple « Nous n'irons plus au bois ». Thank you. Nous n'irons plus au bois, tiré des 36 pièces pour piano à quatre mains de Désiré Émile Engelbrecht. Au piano, on va entendre d'ailleurs de nouveau ce duo, Brigitte Gonin-Chanu et puis Paul Crappy. Et voici maintenant leur moins connu, enfin pour moi en tout cas, il y a aussi sur le pont d'Avignon, il y a un tas de choses qu'on entend beaucoup, Malraux s'en va en guerre, et ben voici Bon voyage, Monsieur Dumollet.